Audiolib présente Martin Eden de Jack London. Traduit par Francis Kerlin. Lu par Denis Podalydès. Chapitre 1er. Le Kidam ouvrit la porte avec une clé et entra, suivi d'un jeune gaillard qui retira sa casquette avec gaucherie. Celui-ci portait des vêtements grossiers, qui sentaient la mer, et le spacieux vestibule dans lequel il se trouvait n'était visiblement pas son élément. Ne sachant que faire de sa casquette, il allait la fourrer dans la poche de son paletot quand l'autre la lui prit. Ce fut un geste simple et naturel que le jeune empoté apprécia. « Il comprend, se dit-il, il ne me laissera pas tomber. » Il marchait sur les talons de l'autre en roulant des épaules et en écartant inconsciemment les jambes, comme si le plancher, immobile, se fût soulevé et abaissé au gré des mouvements de la mer. Les vastes pièces semblaient trop étroites pour ses grandes enjambées, et il craignait que ses larges épaules ne heurtassent les chambranles ou n'allassent faucher le bric-à-brac des consoles. Il louvoyait avec méfiance entre les divers objets et voyait se dresser des périls qui n'existaient que dans son esprit. Là où une demi-douzaine d'hommes eussent pu passer de front, entre un piano à queue et une table centrale jonchée de livres empilés, il se hasarda plein de terreur. Ses bras ballants pendaient lourdement à ses côtés. Il ne savait qu'en faire, et lorsque, dans un instant d'épouvante, l'un d'eux faillit effleurer les livres sur la table, il fit un écart comme un cheval effarouché, évitant de justesse le tabouret du piano. En observant le pas tranquille de l'autre devant lui, il se rendit compte pour la première fois qu'il avait une façon de marcher différente de celle des autres hommes. Il eut soudain honte de sa démarche de rusto. De minuscules gouttes de sueur perlèrent sur son front et il s'arrêta pour éponger son visage bronzé avec son mouchoir. « Attendez, Arthur, mon gars !» dit-il d'un ton badin pour essayer de masquer son angoisse. « C'est trop à la fois pour votre serviteur. Laissez-moi le temps de m'y faire. Vous savez que je voulais pas venir et j'ai idée que votre famille est pas impatiente de me voir. »«
Tout ira bien, » répondit Arthur, rassurant. « Nous sommes des gens simples. Tiens, il y a une lettre pour moi. »
Il revint vers la table, déchira l'enveloppe et se mit à lire, donnant à l'étranger le temps de se ressaisir. Et l'étranger lui en sucrait. L'autre lui offrait sa sympathie et sa bienveillance, et, sous son apparent désarroi, cette chaleur humaine produisait son effet. Il s'essuya le front et regarda autour de lui, le visage recomposé mais avec dans les yeux cette expression qu'on voit chez les bêtes sauvages lorsqu'elles redoutent le piège. Égaré dans l'inconnu, il appréhendait ce qui pouvait arriver, ignorait ce qu'il devait faire et, conscient de la gaucherie de sa démarche et de son allure, craignait que tous les attributs de sa personne ne fussent affectés de la même tare. Il était extrêmement sensible, terriblement mal à l'aise, et le regard amusé que l'autre lui lança secrètement par-dessus la lettre le blessa comme un coup de poignard. Mais il n'en laissa rien paraître, car, parmi les choses qu'il avait apprises, il y avait la discipline, et aussi parce que ce coup de poignard frappait son orgueil. Tout en se maudissant d'être venu, il décida de tenir bon, quoi qu'il arrivât. Ses traits se durcirent et une lueur farouche brilla dans ses yeux. Il observa les lieux plus librement, d'un regard perçant qui enregistrait les moindres détails du joli intérieur. Ses yeux étaient grands ouverts. Rien n'échappait à leur champ de vision et, tandis qu'ils s'imprégnaient de la beauté de l'endroit, leur lueur farouche s'estompa pour faire place à un plus doux reflet. Il était sensible à la beauté, et ici, la beauté ne manquait pas. Une peinture à l'huile capta son attention. De grands brisants se fracassaient contre un rocher saillant. Des nuages bas et noirs couvraient un ciel d'orage crépusculaire, et au-delà de la ligne d'écume, on apercevait une goélette qui serrait le vent et gîtait si dangereusement que chaque détail du pont était visible. Il y avait là une splendeur qui l'attira irrésistiblement. Il en oublia sa démarche maladroite et s'approcha tout près du tableau. La splendeur s'évapora. La mine perplexe, il s'ébahit devant le barbouillage sans valeur qu'il croyait avoir sous les yeux, puis recula. Aussitôt, toute la beauté reparut.
Un trompe-l'œil, se dit-il,
et il n'y pensa plus, bien que parmi le flot d'impressions nouvelles qu'il recevait, il éprouva une pointe d'indignation à l'idée que tant de beauté pût être sacrifiée à un jeu d'optique. Il ne connaissait pas la peinture. Son œil ne s'était exercé que sur des chromos et des lithographies dont le trait était toujours net et défini, de près comme de loin. Il avait vu des peintures à l'huile, certes, dans des devantures de boutique, mais la vitre avait empêché ses yeux avides de s'en approcher. Tournant la tête vers son ami, qui lisait toujours, il avisa les livres sur la table et une sorte de convoitise mélancolique passa dans son regard, comme dans le regard d'un affamé à la vue de la nourriture. Ses épaules pivotèrent et une enjambée impulsive l'amena devant la table, où il se mit à palper les volumes avec affection. Il guigna les titres et les noms des auteurs, lut quelques passages, caressa les pages avec les yeux et les mains. Il reconnut un livre qu'il avait lu, mais pour le reste, les ouvrages et les auteurs lui étaient inconnus. Il tomba sur un recueil de Swinburne et se plongea dans une lecture attentive, oubliant où il se trouvait, le visage radieux. Par deux fois, il referma le livre sur son index pour vérifier le nom de l'auteur. Swinburne, il se souviendrait de ce nom. Voilà un gars qui avait le coup d'œil, qui savait rendre les couleurs et les lumières. Mais qui était Swinburne? Était-il mort depuis 100 ans et plus, comme la plupart des poètes? Ou vivait-il et écrivait-il encore? Il consulta la page de garde. Il avait écrit d'autres livres. Eh bien, dès demain, à la première heure, il irait à la bibliothèque publique pour essayer de dénicher d'autres bouquins de ce Swinburne. Il revint au texte et, vite absorbé par sa lecture, ne remarqua pas qu'une jeune femme était entrée. Il ne s'en aperçut qu'en entendant la voix d'Arthur disant « Ruth, voici Monsieur Eden ». Il referma le livre en marquant la page du doigt et se retourna tout palpitant. Ce n'était pas la fille, mais les paroles de son frère qui lui causaient cet émoi. Sous son corps musculeux couvait une sensibilité à fleur de peau. À la moindre intrusion du monde extérieur dans sa conscience, ses pensées, ses sympathies, ses émotions jaillissaient et vacillaient comme des flamèches. Extraordinairement réceptif, il avait une imagination vertigineuse et sans cesse en effervescence, qui procédait par association d'idées. C'était le « Monsieur Eden », qu'il avait ému, lui qu'on avait toujours appelé Eden, ou Martin Eden, ou simplement Martin, et vous là-bas. Aussitôt, son esprit se changea en une vaste chambre noire, où défilèrent des images de sa vie, des images de chaufferies et de gaillards d'avant, de campements et de plages, de prisons et de bouges, d'hôpitaux et de taudis, toutes associées aux divers noms qu'on lui avait donnés. C'est alors qu'il vit la fille. Un seul regard sur elle suffit à effacer toutes les fantasmagories de son cerveau. C'était une créature pâle, éthérée, aux grands yeux bleus et célestes, avec une somptueuse chevelure d'or. Sa robe, qu'il entrevit à peine, lui parut aussi merveilleuse que sa personne. Il la compara à une fleur d'or pâle frémissant sur sa tige, ou plutôt non. C'était un esprit, une divinité, une déesse. Une beauté aussi sublime n'était pas de ce monde. À moins que les livres n'eussent raison, et qu'il n'y en eût de nombreuses comme elle dans les hautes sphères de la société. La Miss Swinburne eût pu la chanter. Peut-être avait-il une fille semblable en tête quand il avait peint cette Iseux dans le livre sur la table. Toutes ses visions, tous ses sentiments, ses pensées lui étaient venues en foule, sur l'instant, car son esprit n'était jamais en repos. Elle lui serra la main en le regardant droit dans les yeux, franchement, comme un homme. Les femmes qu'il avait connues ne serraient pas la main de cette façon. Pour la plupart, d'ailleurs, elles ne serraient pas la main du tout. Un flot d'images associées aux femmes qu'il avait rencontrées déferla dans sa mémoire, mais il les refoula pour ne regarder qu'elles. Jamais il n'avait vu une telle femme. Soudain, apparurent à ses côtés toutes les autres, toutes celles qu'il avait connues auparavant. En l'espace d'une seconde hors du temps,
Il fut transporté dans une galerie de portraits, où elle occupait la place centrale et devenait l'unité de comparaison, toutes les autres étant pesées et mesurées à son aune. Il vit les visages blafards et maladifs des ouvrières d'usine, les grisettes minaudières et bruyantes de South Market, les gardiennes de bétail, les fumeuses de cigarettes basanées du vieux Mexico, les japonaises aux allures de poupées trottinant à petits pas sur des galoches de bois, les eurasiennes aux traits délicatement façonnés par le métissage et les pulpeuses filles des îles à la peau brune avec leurs couronnes de fleurs. Puis, toutes furent balayées par une vision de cauchemar, terrible et grotesque, les créatures malsaines aux pas traînants des trottoirs de Whitechapel, les mégères bouffies de jeans des lieux de débauche et tout le cortège infernal des harpies, sales et criardes qui, tels des monstres déguisés en femelles, servent de proie aux marins, la raclure des porcs et la lie du genre humain.
« Asseyez-vous donc, monsieur Eden, » dit la jeune fille. « J'étais impatient de vous rencontrer depuis qu'Arthur nous a parlé de vous. Vous avez été si courageux. » Comme il l'arrêtait d'un geste plein de modestie en marmonnant qu'il n'avait rien fait du tout, que n'importe qui eût agi de même, elle remarqua de fraîches abrasions mal cicatrisées sur sa main levée et, baissant le regard, vit que l'autre était dans le même état. Un examen rapide lui montra trois balafres, une première sur sa joue, une seconde sur son front près des cheveux et une troisième qui disparaissait sous son col amidonné. Elle réprima un sourire en apercevant la ligne rouge qui marquait le frottement du col contre sa peau bronzée. Il n'était évidemment pas habitué au col dur. Son œil féminin passa également en revue ses habits bon marché et mal coupés, les fronces de son paletot autour des épaules et tous les petits faux plis des manches, révélateurs de biceps saillants. Marmonnant toujours, il obéit à son invitation en cherchant un siège. Émerveillé par la grâce avec laquelle elle s'asseyait, il s'empressa de prendre place sur une chaise devant elle, honteux de la piètre image qu'il donnait de lui. C'était un sentiment nouveau pour lui. Jamais, jusqu'alors, il ne s'était soucié de son paraître. Il s'assit avec précaution sur le bord de la chaise, très embarrassé de ses mains. Où qu'il les mit, elles le gênaient. Arthur se retira, et Martin Eden le regarda partir avec anxiété. Il se sentait perdu, seul dans la pièce, avec cette femme irréelle. Ici. Point de tavernier à qui commander à boire, point de petit garçon à qui demander d'aller au coin de la rue acheter la canette de bière qui eût permis de rompre la glace. « Quelle cicatrice vous avez sur le cou, monsieur Eden ? » dit-elle. « Comment est-ce arrivé ? Quelque terrible aventure, sans doute ?»«
Un Mexicain avec un couteau, mademoiselle, » répondit-il en humectant ses lèvres sèches et en s'éclaircissant la voix. « Une simple bagarre. » Quand je lui ai chopé son couteau, il a essayé de m'arracher le nez avec ses dents.
À ces mots, la riche vision de cette chaude nuit étoilée à Salina Cruz passa devant ses yeux. La blanche étendue de plage, les lumières des cargos sucriers dans le port, les voix des marins ivres au loin, les dockers jouant des coudes, le regard bestial et enflammé du Mexicain, la morsure de l'acier dans son cou et le jaillissement du sang, la foule et les cris. Leurs deux corps agrippés l'un à l'autre, roulant dans la poussière et, quelque part, les langoureux arpèges d'une guitare. En revoyant ces images qui lui donnaient encore le frisson, il se demanda si l'homme qui avait peint la goélette sur le mur eût su peindre cela aussi. La plage blanche, les étoiles et les lumières des cargos eussent eu belle allure, songea-t-il, avec au centre sur le sable la tache sombre formée par l'attroupement des spectateurs. Le couteau eût aussi eu sa place dans le tableau, tel un éclair d'acier luisant sous les étoiles. Mais de tout cela, rien ne transparut dans ses paroles.
« Il a essayé de m'arracher le nez avec ses dents, » conclut-il.
« Oh !» dit la fille, tout émue, d'une petite voix lointaine. Il était aussi ému qu'elle, et le rouge lui monta aux joues, soudain brûlante, comme si elles eussent été exposées à la fournaise de la chambre de chauffe. Les luttes au couteau étaient des sujets trop sordides pour une causerie avec une dame. Dans les livres, les gens de son milieu ne s'entretenaient pas de ces choses-là, peut-être même n'en avaient-ils jamais entendu parler. Comme la conversation qu'il s'efforçait d'engager semblait s'enliser, elle se hasarda à l'interroger sur sa balafre en s'appliquant à employer le même langage que lui.
il le comprit et décida que c'était à lui, au contraire, d'essayer de parler comme elle.
« C'était juste un accident, » reprit-il en portant la main à sa joue. Une nuit, dans une bonasse avant une tempête, la drisse de Grandvergue a filé, et le palan avec. C'était une drisse en acier, et elle gigotait comme un serpent. Tous les hommes de quart essayaient de l'attraper, et moi, j'ai sauté dessus et je me suis fait alocher.
« Ah !» fit-elle en feignant de comprendre son jargon, qui était de l'hébreu pour elle, tout en se demandant secrètement ce que pouvait être une drisse et ce que « talocher » voulait dire.
« Ce Swinburne-là, » commença-t-il en prononçant « Swinburne » pour adopter une diction qu'il croyait plus distinguée.
« Qui ?»«
Swinburne, » répéta-t-il avec la même erreur de prononciation. « Le poète. »«
Swinburne, » corrigea-t-elle.
« Oui,
c'est ça, » bredouilla-t-il les joues en feu.
« Depuis quand est-il mort ?»«
Ma foi, je n'ai pas entendu dire qu'il l'était. » Elle le regarda avec curiosité. « Où l'avez-vous connu ?»«
Ah, je ne l'ai jamais vu de ma vie, mais j'ai lu un peu de sa poésie dans ce livre-là sur la table, avant que vous veniez. »«
Vous aimez sa poésie ?»
Puisqu'il lui proposait un sujet de conversation, elle s'y prêta volontiers et répondit longuement, de bonne grâce.
Il se sentit mieux et s'installa plus confortablement sur sa chaise, en tenant fermement les accoudoirs comme s'il avait craint qu'elle ne se dérobât sous lui.
Maintenant qu'il avait réussi à la faire parler avec naturel, il s'efforçait de ne pas perdre le fil de son discours, émerveillé par les trésors de savoir engrangés dans cette jolie tête et se repaissant de la pâle beauté de son visage. Bien qu'il parvînt à la suivre, il était gêné par certains mots inconnus, certains commentaires et enchaînements d'idées qui lui étaient étrangers, mais qui néanmoins stimulaient et aiguillonnaient son esprit. Ainsi était la vie intellectuelle, se dit-il. Ainsi était la beauté, douce, merveilleuse, telle que jamais il ne l'avait rêvée. Oubliant sa réserve, il la dévorait des yeux, vivre pour elle, pour la conquérir, se battre et mourir pour elle. Les livres disaient vrai. Il y avait des femmes comme elle sur terre. Elle en était la preuve. Elle donnait des ailes à son imagination, qui déployait devant lui d'immenses toiles lumineuses ou, dans un clair-obscur romantique, se dessinaient de grands gestes chevaleresques pour l'amour d'une dame, d'une femme au teint pâle, d'une fleur d'or. Et, à travers cette vision féerique et changeante comme un mirage, c'était la femme réelle qu'il voyait, assise là devant lui, parlant d'art et de littérature. Il l'écoutait, bien sûr, mais il était surtout occupé à la regarder, et l'essence masculine de sa nature transparaissait dans la fixité et l'ardeur de ce regard, sans qu'il en eût conscience. Elle, en revanche, étant femme, et bien que l'univers des hommes lui fût peu familier, en était très consciente. Elle n'avait jamais été observée de la sorte par un homme, et cela la gênait. Elle balbutia, trébucha sur une phrase et perdit le fil de ses pensées, trouvant la chose à la fois effrayante et étrangement agréable. Tandis que son éducation l'invitait à se défier des leurres subtiles et mystérieux de la séduction, son instinct lui enjoignait en claironnant de passer outre aux barrières sociales et d'aller au-devant de ce voyageur d'un autre monde, de ce jeune homme rude aux mains lacérées, à la gorge rougie par un fâcheux col de chemise et qui, de toute évidence, avait été sali et déshérité par une existence dégradante. Elle était propre et sa propreté se révoltait, mais elle était femme et faisait l'apprentissage du paradoxe de la femme.
Comme je le disais, « Que disais-je déjà ?» Elle s'arrêta net, en riant joyeusement de son étourderie.
« Vous disiez que ce Swinburne n'avait pas réussi à être un grand poète parce que... »« Et vous en êtes restée là, mademoiselle, » répondit-il avec empressement, saisi par une sorte de fringale.
En l'entendant rire, il avait senti de délicieux petits frissons lui parcourir le dos. « Comme un ruissellement de clochettes d'argent, » se dit-il, et, l'espace d'un instant, il s'imagina dans un pays lointain, fumant une cigarette sous un cerisier en fleurs, tandis que les clochettes d'une pagode appelaient à la prière des fidèles en sandales de paille.
« Oui, merci, » reprit-elle. « Swinburne a échoué, en fin de compte, à cause de... d'un manque de délicatesse. Nombre de ses poèmes ne méritent même pas d'être lus.
Le moindre vers d'un grand poète authentique doit contenir une beauté vraie, capable de toucher ce qu'il y a de plus haut et de plus noble en l'homme. Un grand poète ne doit rien écrire qui ne soit un enrichissement pour le monde.
« J'ai trouvé ça bien beau, » fit-il, hésitant. « Le peu que j'ai lu. J'aurais pas cru que c'était un pareil malotru. Sans doute que ça se voit mieux dans ses autres livres. »
« Dans celui que vous lisiez aussi, on trouve de nombreux vers dont on pourrait se dispenser, » affirma-t-elle, dogmatique, avec une pointe de coquetterie.
« Ah, j'ai dû passer à côté, » fit-il. « J'ai lu que les meilleurs. C'était plein de lumière, ça brillait, et ça m'a fait tout chaud en dedans, comme le soleil ou une lampe tempête. Oui, voilà ce que ça m'a fait. Mais faut croire que je suis pas un as en poésie, mademoiselle. »
Il s'interrompit tout penaud, confus et honteux de son peu d'éloquence. Les mots justes lui manquaient pour exprimer la grandeur et la profondeur de ce qu'il avait lu. Dans son désarroi, il se comparait à un marin dans un navire inconnu, par une nuit noire, aux prises avec un gréement inaccoutumé.
« Eh bien, » décréta-t-il, « il ne tenait qu'à lui de s'adapter à ce monde nouveau. Il n'y avait rien dont il ne fût venu à bout quand il l'avait voulu, et il était grand temps pour lui d'apprendre à dire ce qu'il ressentait, afin de se faire comprendre d'elle. » Car il ne voyait plus qu'elle sur sa ligne d'horizon.
Longfellow, en revanche, poursuivit-elle.
Ah oui, je l'ai lu,
dit-il en lui coupant la parole, avide de faire étalage de ses maigres connaissances livresques pour lui montrer qu'il n'était pas complètement ignare.
Le psaume de la vie, Excelsior, je crois que c'est tout.
Elle acquiesça en souriant avec une sorte d'indulgence apitoyée qui le confondit.
Était-il donc naïf de se vanter ainsi? Ce Longfellow avait dû écrire quantité d'autres recueils de poésie. « Excusez-moi, mademoiselle, si j'ai l'air de faire le malin. Au vrai, je connais pas grand-chose à tout ça. C'est pas dans mes cordes, mais je serai bientôt à la hauteur. »
Cela sonna comme une menace. Sa voix était déterminée. Ses yeux lançaient des éclairs et ses traits s'étaient durcis. Elle crut même voir sa mâchoire prendre un angle agressif tandis que de toute sa personne semblait émaner une intense virilité qui l'impressionna beaucoup. « J'en suis convaincue, » acheva-t-elle en riant, « vous êtes très solide. » Elle considéra un instant son cou de taureau épais et noueux, cuivré par le soleil, qui débordait de force et de santé. À le voir là, assis devant elle, humble et rougissant, elle se sentit de nouveau attirée vers lui. Une pensée libertine, qui la surprit elle-même, lui traversa l'esprit. Elle eut soudain envie de poser ses mains sur ce cou, comme pour s'imprégner de son énergie et de sa vigueur, et se reprocha aussitôt d'avoir de tels penchants, craignant de s'être brusquement découvert quelque perversion insoupçonnée, elle qui avait toujours considéré la force physique comme l'apanage des brutes, et pour qui la beauté masculine idéale n'était faite que de grâce et de sveltesse. Mais l'envie persistait, malgré qu'elle en eût, et l'emplissait de confusion. Car elle ne comprenait pas que, étant de constitution fragile, son corps et son esprit avaient besoin de force. Elle comprenait seulement que jamais aucun homme ne l'avait affectée comme celui-ci, qui pourtant la choquait à tout moment avec son horrible syntaxe.
« Je ne suis pas un invalide, pour sûr, » dit-il. « S'il le faut, je peux avaler de la limaille de fer. Mais pour l'heure, j'ai comme de la dyspepsie. Je digère pas le plus gros de ce que vous dites. J'ai pas été entraîné pour, voyez. J'aime bien les livres et la poésie et j'en lis chaque fois que je peux, mais sans réfléchir dessus comme vous. C'est pour ça que je peux guère en parler. Je suis comme un navigateur à la dérive sur une mer inconnue, sans carte ni compas. Maintenant, je veux faire le point. Peut-être que vous pourriez me mettre sur le bon cap. Comment vous avez appris tout ça?
En allant à l'école, j'imagine, et en étudiant.
Je suis allé à l'école quand j'étais gosse.
Oui, mais je veux parler du collège, des conférences, de l'université.
Vous êtes allé à l'université ? Demanda-t-il, subjugué.
Il lui sembla tout à coup que 1000 lieues la séparaient de lui. J'y vais toujours. Je suis des cours spécialisés en anglais.
Il ne savait pas ce qu'était un cours d'anglais, mais passa outre, se contentant d'ajouter mentalement cette nouvelle lacune à la liste de ses ignorances. Il faudrait que j'étudie combien de temps pour pouvoir aller à l'université.
Cela dépend des études que vous avez déjà faites, répondit-elle avec sollicitude, ému par son désir d'apprendre. « Vous n'êtes jamais allé au collège ?»«
Non, bien sûr. »«
Mais avez-vous terminé l'école primaire ?»«
Il me restait 2 ans à faire quand j'ai quitté, mais j'ai toujours eu de bonnes notes. »
Furieux de s'être de nouveau vanté, il agrippa les accoudoirs de sa chaise avec une telle hargne qu'il en eut le bout des doigts transi. Au même moment, une femme entra dans la pièce. La jeune fille se leva, se porta à sa rencontre pour l'embrasser et revint vers lui en la tenant par la taille.
« Ça doit être sa mère, » se dit-il.
C'était une grande femme blonde, mince, belle et distinguée. L'élégance de sa mise, en accord avec le style de la demeure, l'émerveilla. Il crut voir une actrice en costume de scène. Elle lui rappelait ses mondaines en robe d'apparat qu'il avait regardé passer sous la marquise d'un théâtre londonien, un soir de bruine, tandis que des policemen le repoussaient du pied, ou les belles dames de Yokohama qu'il avait aperçues devant le grand hôtel. En un éclair, 1000 images de la ville et du port de Yokohama défilèrent devant ses yeux, comme un kaléidoscope qu'il effaça vite de sa mémoire pour revenir à la réalité de l'instant. Il savait que le moment était venu de se lever pour être présenté. Il s'extirpa péniblement de son siège et resta planté bêtement, dans son pantalon qui faisait des poches sous les genoux, les bras ballants et les traits crispés, dans l'attente du supplice.